إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, on reprend aujourd'hui la lecture et l'étude du livre de fiqh, de jurisprudence, de l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala, intitulé Manhaj al-Salikin. On a commencé la semaine dernière le chapitre de la purification, dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala a commencé par nous mentionner certaines questions liées aux eaux, c'est-à-dire, quelle est l'eau avec laquelle nous pouvons nous purifier. Il a ensuite mentionné quelques points concernant les récipients, étant donné que la purification a lieu avec de l'eau. Tu vas donc avoir besoin d'un récipient pour y mettre l'eau avec laquelle tu vas te purifier. Il était donc nécessaire de mentionner ici ce point dans le chapitre de la purification. En effet, lorsque tu fais tes ablutions, il ne convient pas de laisser l'eau couler à flot comme le font beaucoup de personnes. En effet, beaucoup de gens, lorsqu'ils font les ablutions, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent couler l'eau du robinet. Et ce, par ignorance, ou alors par négligence. Et ceci est contraire à ce qui est légiféré dans les ablutions. En effet, il convient plutôt de ne pas gaspiller l'eau, mais de l'utiliser avec modération, c'est-à-dire de n'utiliser que ce dont tu as besoin pour te purifier. Et pour ce faire, tu as donc besoin d'un récipient pour y mettre l'eau. L'auteur rahimahullah ta'ala a donc dit « وَجَمِعُ الْأَوَانِ مُبَاحَ » et l'ensemble des récipients sont permis. C'est-à-dire que tous les récipients, la base, est qu'il t'est permis de les utiliser, que ce soit pour manger, pour boire, ou alors pour y mettre de l'eau pour te purifier. Que ces récipients soient en fer, en bois, en verre, en plastique ou autre. Et ce conformément à la règle de base que l'on a vu dans le dernier cours, qui stipule que la base pour les choses est la permission, comme le démontre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 29 de Surat al-Baqarah, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala « هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا » Il est celui qui a créé pour vous tout ce qui est sur terre. Il l'a créé pour vous. Ceci est donc une preuve que tant qu'il n'y a pas de texte démontrant l'interdiction d'une chose, la base et la permission. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, « Illa aniyat al-dhahabi wal-fiddah » à l'exception des récipients en or et ceux en argent. Donc tous les récipients sont permis, sauf ceux qui sont en or ou en argent. Il n'est pas permis de les utiliser. Et ce que ce soit pour manger, pour boire, ou pour y mettre de l'eau, pour te purifier. Et cette interdiction, elle est générale, et elle concerne aussi bien les hommes que les femmes. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, il va nous mentionner le hadith démontrant l'interdiction de ces récipients. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, « وَمَا فِيهِ شَيْءٌ مِّنْهُمَا » et ce qui comporte une de ces deux choses. C'est-à-dire, même si le récipient n'est pas totalement en or, ou qu'il n'est pas totalement en argent, il est tout de même interdit de l'utiliser à partir du moment où il est fait à partir d'or ou d'argent. Et il y a une exception à cela, il dit « إِلَّا الْيَسِيرَ مِنَ الْفِضَّةِ لِلْحَاجَةِ » sauf pour une petite quantité d'argent en cas de besoin. C'est-à-dire que le récipient, s'il est en or ou en partie en or, il est interdit de l'utiliser dans tous les cas. S'il est en argent, il est interdit de l'utiliser. Mais s'il n'est pas en argent, mais qu'il y a une petite quantité d'argent sur celui-ci qui a été mise pour un besoin, comme le fait de le réparer, alors ceci est une exception à la règle. Et la preuve à ce sujet est le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, d'après Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, qui nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un verre ou un récipient qui s'est cassé, il s'est fissuré. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé un fil d'argent pour réparer l'endroit qui était fissuré. Ceci nous prouve donc que ceci est une exception à la règle. Et il y a deux conditions pour cela. Qu'il y ait un besoin, comme par exemple le fait de réparer ce récipient, ce n'est pas simplement pour le décorer ou pour faire joli, et que cela soit en petite quantité. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, nous démontrons la preuve de l'interdiction de l'utilisation des récipients en or ou en argent. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحافها. Ne buvez pas dans les récipients d'or et d'argent et ne mangez pas dans leurs plats. On voit donc ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement interdit de boire et de manger dans les récipients faits en or ou en argent. Toutefois, on pourrait se dire que l'interdiction ne concerne que le fait de manger ou de boire. Mais les savants ont expliqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné cela car, en général, les récipients et les plats, ils sont utilisés pour boire et pour manger. Il a donc mentionné ce qui est le plus courant dans l'utilisation des récipients. Les savants ont donc déduit que le hadith est une preuve de l'interdiction de leur utilisation de manière générale, même si ce n'est par exemple que pour mettre de l'eau pour te purifier, ou alors pour s'en servir de décoration. Ceci n'est pas permis également. Car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de les utiliser pour leur utilisation principale, qui est le fait de s'en servir pour boire et pour manger, alors qu'il y a un besoin en cela, alors cela est d'autant plus interdit de les utiliser pour une autre raison que cela. Et quelle est la sagesse et la raison de cette interdiction? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith « فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ » Car ils sont pour eux dans ce bas monde et pour vous dans l'au-delà. Et ce hadith est muttafaqun alayhi, il est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala. Ils sont pour eux dans ce bas monde, c'est-à-dire pour les mécréants. Et pour vous dans l'au-delà, c'est-à-dire pour les croyants. Et ceci ne signifie pas qu'il est permis pour les mécréants ici-bas d'utiliser les récipients d'or et d'argent. Mais cela signifie qu'étant donné qu'ils n'ont pas la foi, qu'ils ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils ne suivent pas la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ne tiennent donc pas compte de cette interdiction. Ils vont donc utiliser des récipients d'or et d'argent. Et le croyant, il ne doit pas s'assimiler à eux. Il ne doit pas ressembler aux mécréants. Il va donc s'écarter de l'utilisation de ces récipients, car cela est une forme de ressemblance aux mécréants, mais aussi car cela mène la personne à l'orgueil, à la vanité et au mépris des autres. D'autant plus que cela peut briser le cœur des pauvres, des personnes qui n'ont peut-être même pas de quoi manger. Que vont-ils ressentir s'ils voient une personne en train de manger dans une assiette en or et de boire dans un verre en argent? Et il n'y a pas de doute que ceci est aussi une forme de gaspillage. Quoi qu'il en soit, ce hadith est une preuve de l'interdiction d'utiliser les récipients ou les plats en or et en argent. Car celui qui les utilise en sera privé dans l'au-delà. Le croyant, il doit donc réserver ses délices et ses récompenses pour l'au-delà. Contrairement au mécréant qui, lui, ne profite que des délices de la vie d'ici-bas et qui sera privé de tout délice dans l'au-delà car il sera en enfer pour y demeurer éternellement et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Après cela, l'auteur rahimahullah ta'ala a entamé un autre chapitre qu'il a mentionné « Babu l'istinja wa adabi qada'il haja » le chapitre d'al-istinja et des conduites à adopter au moment de faire ses besoins. Donc les questions qu'il va aborder ici, ce sont des questions importantes dont tout le monde a besoin. Il est donc nécessaire pour le musulman d'apprendre ses règles afin de se conformer à ce qui est légiféré dans cette situation et à ne pas commettre des interdits. Il a donc dit chapitre d'al-istinja. Al-istinja, cela désigne la purification des parties intimes avec de l'eau après avoir fait ses besoins. Et il va mentionner aussi certaines règles de conduite, certaines bienséances relatives au moment de faire ses besoins. Il commence et il dit, rahimahullah, يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى. Il est recommandé, lorsqu'il entre aux toilettes, dans l'endroit pour faire ses besoins, qu'il y entre par le pied gauche. L'auteur commence donc à nous citer ici les conduites à adopter au moment de faire ses besoins. Et la première chose est que lorsque tu entres aux toilettes, dans l'endroit où tu vas faire tes besoins, tu fais devancer ton pied gauche, c'est-à-dire que tu entres dans cet endroit par le pied gauche. Et la preuve à ce sujet est la généralité du hadith rapportée par Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui plaisait de commencer par la droite lorsqu'il se chaussait, lorsqu'il se purifiait et de l'ensemble de ses affaires. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a mentionné dans l'explication de ce hadith, selon le sens résumé de sa parole, ceci est une règle générale dans la législation, qui est que toutes les choses dignes et honorables, comme le fait de se vêtir, de se chausser, d'entrer à la mosquée, de se brosser les dents avec le siwak, de mettre du khol, de couper ses ongles, de tailler sa moustache, de se coiffer, de se raser la tête, de faire les salutations lors de la prière, de se laver les membres lors des ablutions, de sortir des toilettes, manger, boire, se serrer la main, et ainsi de suite, parmi les choses semblables, alors il est recommandé pour celle-ci de commencer par la droite. Il dit ensuite, quant aux choses contraires, comme le fait d'entrer aux toilettes, ou de sortir de la mosquée, ou de se nettoyer les parties intimes après les besoins, ou de se dévêtir, de retirer ses vêtements, ou de retirer ses chaussures, et autres choses semblables, alors il est recommandé pour celle-ci de commencer par la gauche. Et ce, de par la noblesse de la droite et sa dignité. C'est donc le résumé d'une parole d'Al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans le commentaire de l'authentique de Muslim. On voit donc que les choses diffèrent en trois catégories. Il y a des choses qui sont mauvaises, qui ne sont pas honorables, pour lesquelles on va alors commencer par la gauche, comme le fait d'entrer aux toilettes, de se nettoyer les parties intimes, et ainsi de suite parmi les choses qu'il a mentionnées. La deuxième catégorie, ce sont les bonnes choses, comme entrer à la mosquée, sortir des toilettes, se vêtir, se chausser, et ainsi de suite. Pour celle-ci, on va alors commencer par la droite. Et les troisièmes situations, c'est celles qui ne sont ni bonnes ni mauvaises. Donc dans ce cas-là, on commencera par la droite, car ceci est la base. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَيَقُولْ بِسْمِ اللَّهِ » Et il dit « Bismillah » au nom d'Allah. C'est-à-dire, au moment d'entrer, aux toilettes ou dans l'endroit, tu vas faire tes besoins. La preuve à ce sujet est le hadith rapporté par les imams At-Tirmidhi et Ibn Majah, rahimahum Allah ta'ala, qui a été authentifié par l'imam Al-Albani, rahimahullah. D'après Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le voile qu'il y a entre les yeux des djinns et la nudité des enfants d'Adam, c'est que lorsque l'un d'entre eux entre aux toilettes, qu'ils disent « Bismillah » au nom d'Allah. Il est donc recommandé avant d'entrer aux toilettes de dire « Bismillah » pour les raisons mentionnées dans ce hadith. Et cela est recommandé que ce soit en entrant dans une pièce qui sert de toilette et même si la personne est amenée à faire ses besoins en plein air. Et les gens de science ont mentionné que dans le cas où la personne est amenée à faire ses besoins en plein air, alors elle dira Bismillah au moment de lever ses vêtements. Ensuite, il a dit, rahimahullah ta'ala, mentionnant une autre parole à prononcer au moment d'entrer aux toilettes, « Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith » Donc après avoir dit « Bismillah », tu prononces ces paroles. « Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre al-khubthi wal-khaba'ith » Les gens de science ont expliqué que cela désigne les démons, les shayatin, mâles et femelles. Et cette invocation, elle nous est rapportée dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. D'après Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entrait dans Al-Khala, l'endroit pour faire ses besoins, il disait « Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith »« Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les démons, mâles et femelles. » Et ce car les endroits où l'on fait ses besoins, ce sont des endroits qui servent de refuge aux démons. Car les shayatin, ils aiment les endroits sales. C'est pour cela qu'avant d'y entrer, tu cherches refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il te préserve de leur mal. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ قَدَّمَ الْيُمْنَى » Et lorsqu'il en sort, il sort du pied droit. Comme on l'a vu, à travers la règle générale, tirée du hadith, car sortir des toilettes est une chose honorable. On en sort donc du pied droit. « وَقَالْ Ghufranak. Et lorsque tu sors, tu dis Ghufranak. C'est-à-dire que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala son pardon. La preuve à ce sujet est le hadith authentique rapporté par l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala et d'autres, et authentifié par l'Albani, d'après Aïcha radiallahu ta'ala anha qui a dit: lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait d'Al-Khala, sortait de l'endroit où on fait ses besoins, il disait Ghufranak. Il est donc légiféré pour le musulman, lorsqu'il sort des toilettes, de prononcer cette parole. Et les gens de science ont mentionné différentes sagesses à ce sujet. La première est que tu implores le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala du fait d'avoir délaissé le dhikr, d'avoir délaissé son rappel durant ce temps où tu étais dans cet endroit pour faire tes besoins. La deuxième sagesse est que tu implores le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala en raison de ton incapacité à être reconnaissant envers lui comme il se doit pour ce bienfait immense qu'il t'a accordé. Quel est ce bienfait? Il t'a permis de te nourrir et de laisser dans ton corps tout ce qui est profitable et d'en faire sortir ce qui est nuisible. Et il n'y a pas de doute que ceci fait partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont si nombreux qu'il est difficile pour le serviteur d'être reconnaissant comme il se doit envers Allah subhanahu wa ta'ala à hauteur de ses bienfaits. C'est donc pour cette sagesse qu'il est légiféré, lorsque tu sors des toilettes après avoir fait les besoins, que tu dises Ghufranak. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala son pardon. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné une autre formule de dhikr qui est Alhamdulillahilladhi adhaba anni al-adha wa afani. Louange à Allah qui a fait partir de moi ce qui est nuisible et m'a accordé le salut. Mais cette invocation, elle est rapportée dans un hadith dont la chaîne de transmission est faible. Elle a été jugée faible par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, entre autres. Donc lorsque tu sors des toilettes, tu diras seulement Ghufranak. Ensuite, il dit rahimahullah ta'ala: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. Et lorsqu'il s'assoit, pour faire ses besoins, car il est légiféré de s'asseoir, de se baisser au sol, il dit, il se reposera, il s'appuiera sur sa jambe gauche et laissera la jambe droite relevée. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné cela en se basant sur un hadith qui est rapporté à ce sujet, mais dont la chaîne de transmission a été jugée par les gens de science comme étant faible, comme l'a mentionné notamment Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala, ainsi que Al-Hafidh ibn Hajar et le Cheikh ibn Baz rahimahumullah ta'ala. Ensuite, il dit: وَيَسْتَتِرُ بِحَائِطْ غَيْرِهِ. Et il se cache derrière un mur ou autre. C'est-à-dire que lorsque la personne va faire ses besoins, il est légiféré pour elle de se cacher. Il est interdit de faire ses besoins devant tout le monde. Donc, aujourd'hui, dans les maisons et dans différents endroits, il y a des constructions prévues à cet effet. Mais si la personne se retrouve en plein air et doit faire ses besoins, alors elle devra se cacher, comme derrière un mur ou autre. La preuve à ce sujet est le hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, d'après Abdullah ibn Ja'far, radiyallahu ta'ala anhuma, qui a dit: la chose derrière laquelle aimait le plus se cacher le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour faire ses besoins était une chose élevée ou alors une palmeraie. On voit donc à travers cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se cachait au moment de faire ses besoins. Et ceci est une obligation, comme le démontre le hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma dans les deux recueils de hadith authentiques d'Al-Bukhari et Muslim rahimahumallah ta'ala, dans lequel il nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa à côté de deux tombes. Il dit alors: ces deux-là se font châtier, et ils ne se font pas châtier pour quelque chose de grand, c'est-à-dire quelque chose de grand à vos yeux, mais ce sont des choses qui peuvent paraître pour les gens comme insignifiantes, sans gravité. Il dit alors: quant à l'un d'entre eux, alors il ne se cachait pas pour uriner. Ce hadith nous démontre très clairement que ceci est une cause du châtiment de la tombe. Il est donc obligatoire pour la personne, lorsqu'elle fait ses besoins, de se cacher. Il dit ensuite, rahimahullah ta'ala, وَيَبْعُدُ إِنْ كَانَ فِي الْفَضَاءِ. Et il s'éloigne s'il est en plein air. C'est-à-dire qu'en plus de se cacher, s'il est en plein air, il s'éloigne. Il s'éloigne des gens avec qui il est. Il ne reste pas à proximité d'eux.
Il s'éloigne et se cache afin qu'on ne le voie pas. Comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela nous est rapporté dans les deux recueils de hadiths authentiques. Il ne faut donc pas négliger cela, car il y a des personnes à notre époque qui sont négligentes à ce sujet, qui s'arrêtent en bord de route ou autre et ne cherchent pas à se cacher. Et ceci s'oppose à ce qui est légiféré. Donc après avoir mentionné ces règles, le cheikh rahimahullah ta'ala nous mentionne ensuite qu'il y a des endroits dans lesquels il est interdit de faire ses besoins. Il dit « وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ فِي طَرِيقٍ أَوْ مَحَلِّ جُلُوسِ النَّاسِ أَوْ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ أَوْ فِي مَحَلٍ يُؤْذِي بِهِ النَّاسِ » Et il n'est pas permis pour lui de faire ses besoins sur une route ou dans un endroit où les gens s'assoient ou sous des arbres fruitiers ou dans un endroit qui va nuire aux gens. Donc on voit que la raison sur laquelle se réunissent ces quatre endroits, ce sont tous des endroits dans lesquels il n'est pas permis de faire ses besoins, car cela va nuire aux gens. Si une personne fait ses besoins sur la route, là où les gens marchent, ou alors là où il s'assoit, comme par exemple sur un banc, ou alors à l'ombre d'un arbre, à l'ombre d'un mur où les gens ont l'habitude de s'asseoir, ou sous les arbres fruitiers, sous lesquels il se peut que certains fruits tombent et que les gens les mangent. Donc tout endroit où cela peut porter préjudice aux gens, il n'est pas permis d'y faire ses besoins. La preuve à ce sujet est le hadith rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. D'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Craignez deux choses dont l'auteur est maudit. » Alors les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ont demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quelles sont ces deux choses dont l'auteur est maudit? Il dit alors, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait ses besoins sur le chemin des gens ou dans les endroits où ils se mettent à l'ombre. Le musulman doit donc prendre garde à ne pas nuire à autrui, car ceci est interdit dans notre noble religion. Tout ce qui porte préjudice à autrui doit être évité. Et entre dans cela le fait de faire ses besoins dans un endroit où cela va nuire aux gens. Et comme vous l'avez entendu dans le hadith, celui qui fait cela, qui fait ses besoins sur le chemin des gens, ou dans un endroit où il se met à l'ombre, alors il est maudit. La malédiction, cela signifie qu'il est exclu, rejeté, éloigné de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci n'est donc pas une chose à prendre à la légère, car ceci nous prouve que cela fait partie des grands péchés. Ensuite il dit, rahimahullah ta'ala, « وَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَيَسْتَدْبِرُهَا حَالَ قَضَاهِ الْحَاجَةَ » Et il ne fait pas face à la Qibla, et il n'y fait pas dos non plus, c'est-à-dire qu'il est ni face ni dos à la Qibla au moment où il fait ses besoins. Il dit, rahimahullah, « لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطْ فَلَا تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أُغَرِّبُوا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ » Lorsque vous allez faire vos besoins, ne faites pas face à la Qibla, que ce soit pour les selles ou pour l'urine. Et ne tournez pas le dos à celle-ci, mais tournez-vous plutôt à l'est ou à l'ouest. Et ce hadith est muttafaqun alayhi, il est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc interdit dans ce hadith de faire face à la Qibla, ou d'être dos à la Qibla au moment où la personne fait ses besoins. Et il a dit, mais tournez-vous plutôt à l'est ou à l'ouest, et ce car, en ce qui concerne les gens de Médine, la Qibla était en direction du sud. Donc, pour ne pas faire face à la Qibla, ni être dos à la Qibla, il devait se tourner à l'est ou à l'ouest. Donc lorsque la personne fait ses besoins, elle doit prendre soin à ne pas faire face à la Qibla, ni à être dos à la Qibla, que ce soit en plein air, ou dans une construction, dans une maison ou autre. Et si dans un endroit, les toilettes sont faites en direction de la Qibla, alors on doit se détourner de celle-ci, ne pas y faire face et ne pas être dos à la Qibla, et c'est en se mettant sur le côté, afin de se soumettre à cet ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants ont mentionné différents avis au sujet de cette question, mais comme on l'a mentionné, l'auteur, rahimahullah ta'ala, ne mentionne dans ce livre que les avis qui sont pour lui les plus justes d'après l'épreuve. Il n'a pas mentionné les divergences afin de faciliter l'étude pour le débutant. Il nous suffit donc, pour une première approche, de prendre connaissance de ses avis, puis par la suite, pour celui qui en a les capacités, d'élargir ses connaissances en apprenant les différents avis sur les différentes questions. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ إِسْتَجْمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا تُنَقِّي الْمَحَلَّ. Et après avoir fait ses besoins, il fait ce qu'on appelle l'istijmar, qui consiste à se nettoyer avec trois pierres ou une autre chose semblable qui va nettoyer l'endroit par lequel est sortie l'impureté. Il est donc légiféré de prendre trois pierres ou une autre chose semblable, comme par exemple du papier ou des mouchoirs ou autre. La preuve à ce sujet est le hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullahu ta'ala, d'après Salman radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de nous nettoyer avec moins de trois pierres. On voit donc que ce qui est légiféré est d'utiliser au minimum trois pierres, ou trois morceaux de papier ou trois mouchoirs. Et s'il y a besoin d'en utiliser plus, alors on en utilise plus, et ce, jusqu'à retirer l'impureté. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, dit « ثُمَّ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ. Puis ensuite, il se nettoie avec de l'eau. Il est donc légiféré pour le musulman, après avoir fait ses besoins, de faire l'istijmar, qui consiste à se nettoyer avec trois pierres ou autre chose semblable, ou bien l'istinja, qui consiste à se nettoyer avec de l'eau. Et la preuve concernant l'istinja, le nettoyage avec de l'eau, c'est le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit: le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, rentrait au khala, dans l'endroit où il faisait ses besoins, et je portais, avec un enfant, un petit récipient d'eau, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se nettoyait avec de l'eau. L'auteur, rahimahullahu ta'ala, dit ensuite: وَيَكْفِي الْاِقْتِصَارُ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا. Et il suffit de l'un d'entre eux. C'est-à-dire, il suffit de l'istijmar ou l'istinja. C'est-à-dire que ce n'est pas une condition de commencer par l'istijmar, de commencer par se nettoyer avec du papier ou des mouchoirs ou autre, puis de se laver avec de l'eau. Mais si la personne se nettoie avec du papier seulement, ou alors elle se nettoie avec de l'eau seulement, ceci est suffisant, incha'Allah ta'ala. Et le mieux est de se nettoyer avec de l'eau. Et ce car, cela est plus complet en termes de purification. En effet, l'eau, elle va retirer complètement l'impureté et n'en laisser aucune trace. Contrairement à l'istijmar, le nettoyage avec du papier ou autre, qui va enlever l'impureté, mais qui pourrait en laisser des traces. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, nous mentionnant certaines choses avec lesquelles il est interdit de se nettoyer. Il dit: وَلَا يَسْتَجْمِرُ بِالرَّوْثِ وَالْعِظَامِ كَمَا نَهَا عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Et il ne se nettoie pas avec des crottins ou des os, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. En effet, dans le hadith de Salman radiyallahu ta'ala anhu, que l'on vient de mentionner, il a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de nous nettoyer avec moins de trois pierres et de nous nettoyer avec un crottin ou un os. Comme on a dit, ce hadith est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc très clairement interdit cela. Et dans un autre hadith authentique, qui est authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet des crottins et des os: il ne purifie pas. C'est une des raisons pour lesquelles c'est interdit, car ils ne permettent pas à la personne de se purifier, contrairement aux pierres, aux papiers et à l'eau. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, dit également: وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا لَهُ حُرْمَةٌ. Et également, tout ce qui a une sacralité. Il n'est pas permis de se nettoyer avec tout ce qui a une sacralité, comme par exemple avec de la nourriture, ou alors des feuilles sur lesquelles des choses sont écrites, des feuilles d'un livre ou autre chose semblable. Ceci n'est pas permis. Mais la personne ne doit se laver qu'avec des pierres, du papier, des mouchoirs ou autre chose semblable, des choses qui n'ont pas de sacralité, ou alors avec de l'eau, et ceci est ce qui est préférable. Parmi les choses à mentionner, que l'auteur n'a pas clairement stipulé ici, il y a le fait que ce nettoyage doit se faire avec la main gauche. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, a mentionné un sous-chapitre concernant le nettoyage des impuretés et des choses impures. Et c'est ce qu'on verra, incha'Allah ta'ala, dans le cours de demain. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.